C'est une question pour Jacques Buchold. Donc, l'argument que les écrits de Qumran sont un argument donc pour une rédaction précoce des évangiles, dans la mesure où les écrits de Qumran ont été mis par écrit soit par le maître de la justice, soit 10 à 20 ans après sa mort, je me demande si ce n'est pas un argument circulaire, parce que quelles sont les preuves historiques qu'on a que c'est effectivement le maître de justice qui a écrit et que c'est 10 à 20 ans après sa mort au maximum. Est-ce qu'on ne retrouve pas les mêmes incertitudes pour les écrits de Qumran que pour les évangiles, finalement?
Alors, non, mais je vais juste essayer de reprendre quelques autres arguments pour finir avec cet argument-là, que ces questions-là. Donc ce qui est extrêmement étonnant, ce qui est intéressant pour moi, en fait, à la lumière, par exemple, je souligne ça très fortement, c'est que tout ce qui était interdit d'être mis par écrit, ou tout ce que dans les cercles parisiens, on se refusait de mettre par écrit, on le retrouve à Qumran. Alors, je n'ai pas assez insisté, mais il y a des écrits, par exemple, à l'Aquitain, où on discute de la loi. Donc, tout ce que la tradition orale contient sur ce qu'il faut faire, pas faire, etc., on le retrouve à Qumran. Les péchers, donc les midrashs, donc cette prédication de la synagogue, que l'on ne devait pas mettre par écrit, que l'on ne mettait pas par écrit, on la trouve mise par écrit dans les écrits de Qumran, donc des écrits à la Kitz, des écrits à l'Édit. La Gadelle, l'image de la Hata, la loi et les récits, l'histoire. Donc, ça c'est un premier argument qui montre que le problème de l'oralité est un faux problème. C'est pas le problème de l'oralité comme si l'oralité était privilégiée en tant que telle qui fait que les évangiles auraient été mis par écrit plus très petit ou très tardivement après tout un processus oral, mais si on n'a pas mis par écrit les midrashs à la Kite, à de la Gada, dans les cercles parisiens, c'est pour des raisons idéologiques. Donc, favoriser ce type de processus oral contre un processus de mise par écrit immédiat au nom du principe même de l'oralité, c'est faux. Et cela, c'est d'autant plus intéressant que ça semble faux d'un point de vue historique. Et ça me semble intéressant parce que c'est quelque chose qu'on lit dans plein de textes, et en particulier aussi à propos de ce que dit Papias. Papias qui dit que, bon, il avait, lui, les évangiles, mais quand il rencontrait quelqu'un qui avait pu parler aux apôtres, il préférait contrôler, il préférait vérifier, parce qu'il préfère toujours vérifier quand on peut parler de qui voit que vérifier à partir de ce qu'il écrit. Et donc on prend Papias aussi pour valoriser ce processus oral, disons de transmission orale, alors que là de nouveau, Papias, et là j'aurais bien aimé en parler, mais vous pouvez prendre le livre de Richard Bocam, qui est un petit bijou sur ce chapitre-là, The Eyewitnesses. C'est absolument remarquable parce qu'il démontre toute l'interprétation de Papias. Et il montre que si Papias où il a tout pris écouter les gens et ne pas se contenter de l'écrit, c'est que Papias avait une démarche de type historique où il voulait pouvoir contrôler auprès de témoins oculaires ou de témoins qui avaient connu des témoins oculaires ce qui était écrit. Donc là, du mot, c'est pas au nom d'un principe de la valeur de l'oralité que l'on doit mettre par écrit. Je pensais que les écrits, que les évangiles n'ont pas pu être écrits. Alors ça, c'est le premier point. Et alors, on découvre ça à Qumran. Et alors, on découvre à Qumran quelque chose disons, qui est encore plus étonnant, c'est qu'il semble bien, et là, une grande partie des spécialistes reconnaissent qu'il y a des écrits du maître de justice lui-même. Et ça, c'est des spécialistes qui le disent. Alors, pourquoi le disent-ils? Alors, je me souviens toujours de ce que disait quelqu'un, j'ai bien sûr oublié son nom, parce que ma tête est bien énorme, de la méthode historique de. Henri Mahou, donc de la méthode historique, qui vous dit quand même incroyable. Parce que lorsque vous parlez des sources, dans toutes les questions concernant l'Empire romain, les choses sont très détendues. Et dès que vous parlez des sources, alors que ça appartient à la même époque, aux mêmes dates, qui concernent l'histoire de Jésus-Christ, là, les choses deviennent absolument tendues et on est incapable d'accepter, disons, ce qu'on accepte méthodologiquement en histoire pour l'étude des sources sur les autres questions à l'époque. Alors, on peut se demander si, justement, par rapport à Qumran, moi, je n'ai jamais lu de livre de forme d'Ishishtan. Alors, on reconnaît que dans les idées de Qumran, il peut y avoir des évolutions historiques, je l'ai dit, parce qu'elles sont. On a des livres en manuscrit, on voit une évolution historique, il y a une différence. Mais il n'y a jamais cette surexcitation de l'esprit qui fait qu'on soupçonne tout de suite les auteurs en disant ça peut mettre le maître de justice. Alors, je n'ai pas dit, mais en général, Alain Millard va jusqu'à dire, à partir de la pratique de l'époque, que très certainement, certains disciples de Jésus ont déjà pris des notes. Parce que ça se faisait. Lorsque les enseignants, je n'ose pas le dire, parce qu'en tant que télégène, si vous dites ça, on prend pour ridicule. Mais bon, Alain Millard, qui a toute l'autorité historique, archéologique, scientifique, académique, pour le dire, se permet de le dire dans un bouquin. Je crois qu'il a raison.
Des compléments? Sinon, une autre question. C'est toujours le micro-circuit là.
On a entendu plusieurs arguments qui font référence à la notion de probabilité, donc la probabilité que Dieu existe, la probabilité que le principe de fiabilité est vrai. Et j'avoue que moi, en tant que matheux, ça me gêne un peu, parce que la probabilité, la probabilité, comme tout en maths, a une définition très très précise. Donc on parle d'un espace de probabilité, et c'est une mesure sur un espace de probabilité. Il y a une notion d'espace, d'ensemble, de possibles et de distribution de probabilité. Donc j'ai toujours du mal avec ces arguments parce qu'il me semble un peu... On parle de probabilité sans jamais vraiment définir ce que c'est. Alors est-ce qu'il y a une définition un peu plus satisfaisante lorsqu'on parle de ça ou est-ce que ça reste juste une notion intuitive qui finalement, moi, personnellement, me satisfait pas trop?
parlait dans de l'existence de Dieu comme étant très probable. Pour un philosophe, cette notion-là peut aller très très loin dans le sens où ça peut être quelque chose de quasiment certain, mais pas d'absolument certain. Et la seule limite qu'il y a entre le pas tout à fait certain et l'absolument certain, c'est le principe de non-contradiction. C'est-à-dire que s'il reste, la possibilité d'une hypothèse alternative. Donc, par exemple, est-ce que notre monde existe? C'est une question en philosophie. Il faut essayer d'évaluer si c'est possible, si c'est probable que notre monde existe, ou alors est-ce qu'il n'est qu'une pure illusion. Mais en philo, il faut savoir qu'aucun philosophe, je ne connais pas en tout cas, qui puisse affirmer « je suis certain que le monde existe ». Parce qu'on ne peut pas refuser l'hypothèse selon laquelle il serait possible que, ou bien l'argument de Descartes, je suis en train de rêver, et quand bien même je suis en train de pincer, d'essayer de réveiller, je pourrais me réveiller à l'intérieur d'un autre rêve, et puis me réveiller encore à l'intérieur d'un autre rêve, je peux pas être certain que je suis dans la réalité. Ou autre argument de Hilary Putnam, peut-être que nous sommes un cerveau dans une cuve, c'est un peu l'hypothèse de Matrix. Et quand bien même je dirais, mais je peux toucher les choses, je peux les voir. Oui, mais peut-être que tout ça, c'est les perceptions qui me sont données par les électrodes qui sont connectées à mon cerveau, et je ne peux jamais aller au-delà de la perception subjective que j'ai. Et malheureusement, je peux toujours douter de ces perceptions. Donc pour un philosophe, l'existence du monde n'est pas certaine. Pourtant, raisonnablement parlant, qui plus est, c'est l'hypothèse la plus simple, c'est quand même de supposer que ce monde existe. Je dirais qu'il y a une forme un peu intuitive d'usage du probable, du possible en philo. Alors, par contre, je connais beaucoup moins les travaux sur les probabilités que j'ai pu lire encore, mais il y a un usage qui est la quantité d'arguments. Qu'est-ce qui paraît vraisemblable? C'est plus un usage intuitif que vraiment, qu'on puisse vraiment calculer. Voilà.
Merci, c'est une question pour Sylvain Bréchet. La question est assez pratique en quelque sorte. Qu'est-ce que tu répondrais à Étienne Klein dans la mesure où, au fond, tu considères le Big Bang comme le commencement de l'univers, en somme. Étienne Klein dit, par exemple, on n'a pas le droit de considérer le Big Bang comme le début de l'univers dans la mesure où nous n'avons pas une théorie complète qui lie gravitation et mécanique quantique, et donc on n'a pas le droit d'identifier le Big Bang à l'origine de l'univers. Rien nous dit qu'il n'y a pas quelque chose qui s'est passé avant. Quelle est ta réponse en termes simples et intuitifs, si je peux demander?
Merci Pierre, c'est une excellente question. En fait, au sens stricto sensu, il a raison. Dans le sens où, lorsqu'on a une théorie qui vient intervenir une singularité, c'est que la théorie sort en réalité de son domaine d'application. C'est la raison pour laquelle, avant 10^-43 secondes, on n'est pas capable de dire ce qui s'est vraiment passé. Maintenant, si on se base sur d'autres éléments, comme par exemple la cohérence globale de notre univers, c'est-à-dire le fait que, typiquement, l'univers en son ensemble doit satisfaire le seul principe de la thermodynamique, eh bien forcément, il va devoir tendre vers un état d'ordre maximal, et j'ai beaucoup aimé ce que disait Alexis ce matin par rapport à ce second argument mentionnant William McRae, qui disait que l'espace monde va être plus profond, plus fondamental que les modèles cosmologiques eux-mêmes. Maintenant, personnellement, bon, là je suis en train de spéculer, mais ce que je pense, c'est qu'il y a de fortes chances que notre univers ait commencé par un état initial qui était très très dense, très très chaud, très très petit, mais pas au sens strict, au sens infiniment dense, infiniment chaud, infiniment petit. Mais la cohérence de ce qu'on voit nous porte à croire qu'effectivement il y a dû avoir un commencement. Parce qu'on ne peut pas faire une extrapolation infinie vers l'égal infini, disons, vers l'infini dans le passé, puisque notre univers clairement évolue, il y a une évolution qui est irréversible, qui n'est pas symétrique dans le temps. Donc, ceci interdit, en fait, l'existence d'un univers éternel, physiquement. Alors, voilà. Je ne sais pas si ça répond à la question, j'espère.
Bonjour, j'ai deux questions pour Roger Pouvier. Vous avez montré que, en fait, vous avez repris les arguments d'Alvin Plantinga qui montrent que l'évolution naturaliste ne tient pas. Et donc, du coup, la première question que je me pose, c'est que est-ce qu'on peut toujours continuer à utiliser les lois de la probabilité classiques pour les prédictions évolutionnistes, sachant qu'on a l'intervention divine? Et ma deuxième question, c'est, sachant qu'il y a l'intervention divine, est-ce qu'on n'est pas aussi en train d'admettre la possibilité de la création directe des espaces, et donc on ne passe pas par l'évolution?
Je vais vous répondre un peu à la place de Plantinga, hein, parce que je pense pour lui, c'est important, c'est de montrer que la probabilité de la fiabilité d'une faculté cognitive est faible ou très difficile à déterminer, mais d'un vraisemblablement très faible, si le naturalisme et l'évolutionnisme sont vrais ensemble. C'est cette probabilité-là. C'est pas. C'est un argument qui ne porte que là-dessus. C'est pour ça que j'ai rapproché l'argument de la raison de Sixtionis, parce que dans les deux cas, il s'agit de s'interroger sur notre capacité à connaître. Il faut rendre possible, il faut que nous ayons les capacités intellectuelles des théories scientifiques que nous soutenons. Sinon, c'est absurde. Et donc, une théorie scientifique qui aurait pour conséquence que en rien nous ne pouvons justifier notre propre capacité à la connaître est à quelque chose de vraiment contradictoire. Donc c'est ça l'idée. Alors, maintenant, il ne se prononce pas, je ne sens pas qu'il se prononce sur l'usage des probabilités dans la théorie de l'évolution. Et en tous les cas, il n'est certainement pas fixiste. Ce qui l'intéresse, c'est quand même de montrer qu'il n'y a pas du tout d'incompatibilité entre l'acceptation de la théorie de l'évolution et le théisme. Mais ça ne le conduit pas du tout à dire à ce moment-là, il faut accepter la théorie de la jeune Terre, et ce genre de théorie où l'univers a 7000 ans, je ne sais pas, mais pas du tout. L'idée, c'est qu'on accepte ce que disent les tenants, qui disent d'ailleurs pas tous la même chose, de la théorie de l'évolution. Mais, il y a une providence, c'est-à-dire c'est l'idée que l'évolution est guidée. Alors, est-ce que ça implique qu'on arrête d'utiliser, par exemple, des probabilités dans la formulation des lois de l'évolution? Je ne vois pas, ça n'impliquerait pas plus que. On retrouve à ce moment-là un problème très très classique. Pour n'importe quel individu, on peut appliquer des lois de probabilité statistiques et des statistiques pour savoir s'il va se comporter de telle ou telle façon, étant donné qu'il est de tel milieu social, qu'il a tel parcours, etc. On voit bien ce qu'on peut faire de ce point de vue-là. Évidemment, ça ne change rien, par exemple, au fait qu'on puisse croire que les gens sont doués du parapire. On peut à la fois penser qu'effectivement, on peut faire ce type de pratiquer de cette façon des probabilités, et puis, d'un autre côté, penser que les gens ne sont pas déterminés à agir. Donc, c'est un peu. Les deux subsistent de la même façon.
Alors moi, ce serait une question pour Roger Puivet aussi. Alors, il y a vous, donc vous, hein, et plusieurs auteurs en France, hein, vous emmenez en ce moment une certaine, enfin oui, une philosophie analytique de la religion. Hein, je pense à Frédéric Guillot, Paul Clavier, Frédéric Neff même au niveau de la métaphysique. Et je vous remercie en tout cas pour ça. Hein, donc premièrement, merci pour ça, hein, par rapport à vos contributions. Et ma question, c'était dans quelle mesure est-ce que ce qui est en train d'être emmené à ce niveau-là peut avoir un impact en fait au niveau du domaine philosophique actuellement en fait, donc au niveau de la réflexion sur Dieu. Enfin, je ne sais pas où est-ce qu'on en est en ce moment à ce niveau-là, hein, mais justement comme vous êtes professeur de philosophie, quel type d'impact ça peut avoir? J'ai envie de dire au niveau national, si on se met à rêver. Si on se met à rêver.
C'est difficile de... l'impact... c'est pas un mouvement concerté. Je veux dire, tout ça, ce sont des gens qui se connaissent. Frédéric Neff, c'est mon directeur de thèse. Et on se connaît tous. Et souvent on a des relations amicales, même pas trop fortes. Mais je pense que ce qui constitue, ce qui apparaît comme un groupe, c'est lié au fait que c'est le même style en philosophie, et que donc ça nous rend plus facile de discuter. Parce qu'on pratique des philosophies argumentatives, où on échange des arguments, c'est plus facile qu'un style de philosophie dans lequel il y a des sortes de génialités individuelles. Donc, c'est plus facile de discuter quand les gens ne pensent pas que chacun est un génie. Je crois que ce qui est intéressant, c'est l'émergence quand même, d'années, d'une philosophie de la religion qui est très différente de celle qui était dominante en France jusqu'ici et qui était très marquée par Paul Ricoeur, Emmanuel Levinas, etc. D'ailleurs, que ce soit une critique de ce qu'ils ont fait, mais qui est effectivement assez différente. Alors, quel résultat ça aura si on a déjà un petit peu, parce qu'il y a des thèses qui sont soutenues. Et que ces gens-là, sans doute, rentreront eux-mêmes dans la carrière, et donc on peut espérer que quelque chose subsiste dans tout ça, mais il faut appuyer sur soi la trace pour que ça se développe encore plus.
Je veux aussi répondre à la question si c'est possible, même si mon expérience n'est pas du tout la même, et à lui, j'aimerais plus faire appel à un témoignage. C'est que moi, j'ai fait mon master de philosophie sur les premiers sens de Dieu chez saint Thomas, et ce qui en reste après la critique kantienne. Et comme tout étudiant à l'université, on doit exposer devant ses pairs la résultat de sa recherche. Donc j'ai exposé devant ma promo que le résultat de l'étude, c'était que Kant, finalement, ça n'avait pas un coup dans la critique des premiers sens de Dieu, et finalement, on tenait plutôt bien la route. Il n'y a pas eu vraiment une seule réaction dans ma promo. J'ai l'impression que dans ma promo, chacun avait déjà un peu sa philosophie, puis vous savez, c'était l'avenir était tracé. Voilà, chacun avait déjà son idéologie. Donc on pouvait trouver un argument qui avait été en cause d'une opinion commune, et dénommer Kant en philo, c'est ça la philopathe, c'est très fort. En revanche, en faisant des dialogues veritas, donc les débats qui se font dans les universités, j'ai vu des étudiants qui étaient invités par des amis chrétiens, qui étaient en larmes. Et c'est-à-dire des personnes, on a juste fait un exposé d'arguments, et des personnes qui commençaient à être touchées alors qu'ils n'étaient pas dans le milieu chrétien. C'était des jeunes étudiants, à qui les profs leur disent, surtout d'ailleurs dans le départ de l'âge, on leur dit le raisonnement c'est super important. Il y a une réunion chrétienne, un débat chrétien, et quelqu'un leur expose des arguments qui correspondent un peu à leurs valeurs. On leur dit le raisonnement c'est bien, et là ils vont à un raisonnement.
et j'ai vu des gens touchés. Et ça fait, hein, c'est, voilà, c'est ce que j'ai vu en fait le philo, c'est que j'ai pas eu beaucoup d'impact. Par contre, chez des étudiants en prépa ou des jeunes étudiants, j'ai vu un impact. Donc je pense qu'il ne faut pas envisager seulement la philo uniquement à un niveau universitaire, mais également au niveau de cette vulgarisation. Je pense qu'il y a aussi vraiment quelque chose à faire. Si William Lecrae a beaucoup travaillé aux États-Unis, par exemple, sur la vulgarisation de l'apologétique et de la réflexion philosophique, pour d'autres personnes que les personnes qui ont fait la philo avec un impact, je pense qu'on peut aussi faire ça auprès des étudiants en France. Et le Forum Veritas, ou les hommes Veritas le font, et c'est très bien.
It's a question for Emily. I just wonder if you think that your research, or say people in cognitive science doing similar research, do you think that this is an argument for the existence of God, or is it neutral, or if it's perhaps even an argument for atheism? Because I could imagine that an atheist could say, okay, there is a kind of natural tendency to believe in God, but that doesn't prove that God exists. Perhaps it even shows that this is part of the illusion we have, and so we have to do hard thinking and education and science to overcome this natural illusion.
And that's exactly what Dawkins likes to use for the research, and so he does see it as an infantile type of intuitions that we have. And so most of the people I work with actually are atheists, so they're fascinated by why religion is still around, and so a lot of the, but they still think that it's an intuitive part of being human, it's a natural part of being human, and most of them take a neutral part, so they can't prove the existence of God, and they probably can't disprove it either, but certainly as Christians we can think that there is a design and purpose for how we can think about God. But it doesn't, scientifically, it doesn't give us any more, tools to prove its existence or any. Richard Dawkins does take it for that side, and Christians, I think, can take it the other side as well. I still think it's interesting. These tools tell us probably why these ideas exist and why they persisted for so long. Does that answer your question?
Une question? There's a different invention to the last French.
Ah oui, le français était. C'est. Ou alors je vais essayer de le dire en anglais. So, I try to say, when I read some books of evolutionists, for example, Pascal Pic or these people, they are just saying that man is the only creature, only creature, who believes in his phantasm, who says he calls it fantasm.
This is fantasy.
It's fantasy, yes. And I think that's what you said is a good argument, could be a good argument for them, that you prove that even children who are very young have already that fantasy, who says yes, and they just think of God, but this doesn't prove anything. And this, for these people, is one of the characteristic of what a man is to believe in his practices.
That was
a
great comment.
Yeah.
And some people do think, well, if you naturally come to think of these ideas as a child, why isn't that just the natural way of things?
Alors, j'ai encore une question pour Sylvain. Je ressens, sur le plan intuitif, c'est à propos de l'argument de Roger Penrose sur l'augmentation de l'entropie, et si on remonte en arrière, d'arriver à un univers extrêmement ordonné, d'où ce facteur 10 puissance 10 à la puissance 123, etc. Et je pose donc évidemment c'est certainement vrai sur le plan strictement formel, mais sur le plan intuitif j'ai parfois un peu de bien qu'étant plongé aussi dans ces domaines mais pas en tant que théoricien, j'ai un peu de peine à me représenter la chose parce qu'on a toujours tendance il me semble à se représenter l'univers primordial comme quelque chose de relativement simple, un gaz, un plasma extrêmement homogène, etc. Et puis après c'est vrai il y a les trous noirs qui ont une entropie particulièrement grande qui apparaissent et donc l'entropie de l'univers augmente, mais en même temps il y a tout cette espèce de grande fresque de Hubert Reeves sur la croissance de la complexité, donc qui dit complexité dit intuitivement diminution d'entropie au contraire. Donc comment est-ce que je sais pas si tu vois la tension dans laquelle je suis du point de vue de l'intuition. Est-ce que tu peux résoudre ça de manière pédagogique?
Je crois que je sais ce que tu veux dire. En fait, bon, ce qu'a fait explicitement Sir Roger Penrose, c'est qu'il a considéré effectivement qu'on pouvait négliger certains constituants de l'univers et que, grosso modo, la grande majorité de l'entropie, la croissance d'entropie au sein de l'univers est liée au trou noir. Donc, il a considéré un trou noir équivalent qui contiendrait toute l'entropie de l'univers observable et il a appliqué la formule de Hawking-Beckenstein qui nous donne l'entropie d'un trou noir qui est liée à la surface et non au volume, qui est quelque chose de contre-intuitif en fait. Et en faisant ce calcul, il a pu voir quel était l'accroissement en fait, de l'entropie au cours du temps à quelques mètres. Quel devait être l'entropie minimale qui peut exister au départ. Maintenant, il a utilisé un autre concept physique assez intéressant, c'est l'espace de phase. Donc il a considéré les positions et les vitesses de toutes les particules, etc. Et donc sur toutes les configurations possibles et existantes de l'univers, il s'est posé la question, bah, finalement, si l'univers est tellement ordonné, quelle va être la fraction d'espace de phase qui va être occupée par l'état initial, et donc cette fraction, elle est incroyablement petite. C'est là qu'il a tiré le nombre, 10 à la puissance 10 à la puissance 123. Donc, ce n'est pas un résultat rigoureusement exact, mais c'est un résultat approximé qui est relativement bon pour décrire l'ordre qui devait régner au départ. Donc, cela revient simplement à dire, oui, l'univers était simple, il était extrêmement bien ordonné au départ, mais en fait, pour qu'il soit ultra simple et bien ordonné, il occupe une petite phase de tous les états possibles. Je prends un autre exemple et essayer d'illustrer ça. Imaginez que vous avez de l'eau dans un récipient. D'accord ? Alors, si vous refroidissez cette eau, quand vous avez une structure cristalline qui va apparaître, glace, c'est-à-dire que vous le refroidissez jusqu'au zéro absolu, l'eau va être très très bon, la glace, H2O va être très très bien ordonnée. Et vous allez avoir quasiment un seul état possible dans lequel, à permutation près des molécules d'eau, dans lequel vous allez retrouver votre système. Si maintenant vous chauffez votre eau, d'accord, elle va passer dans cette eau, elle passera par le point de fusion, donc elle va devenir liquide, le désordre va augmenter. Si vous continuez, vous allez passer par la température d'évaporation, et puis vous avez des molécules d'eau qui commencent à se disperser dans le récipient, donc vous avez un état qui est beaucoup plus désordonné. Et donc, l'état extrêmement ordonné occupe une toute petite phase, une toute petite partie de l'espace de phase, donc une toute petite partie de l'ensemble des configurations possibles. Donc c'est ça qui s'est passé pour l'univers. C'est tragiquement plus important que pour de l'eau dans un récipient, mais c'est essentiellement la même idée.
Dans tous les arguments qui ont été exposés, et puis dans d'autres encore, on aboutit souvent à la conclusion qu'il y a de fortes chances, on va dire, que Dieu existe, sans tomber dans la certitude absolue. Est-ce que cela est voulu par Dieu? Ça, c'est plutôt une question aux théologiens. Est-ce que le fait qu'il n'y ait pas de preuves, on va dire, à 100%, mais que ce soit une forte probabilité seulement, serait une volonté de Dieu pour que nous exercions notre foi?
Juste avant que la théologie réponde, ou alors le temps qu'il fasse sa réponse dans sa tête, c'est
justement sur ce point-là, et c'est surtout sur cette raison que j'ai abordé la question de est-ce que le monde existe. C'est que quand on dit qu'on n'est pas exactement certain, absolument à 100% que Dieu existe, c'est quelque chose qui, pour le commun des mortels, est complètement déraisonnable. C'est au-delà de tout raisonnable. C'est-à-dire que si la justice fonctionne avec les mêmes critères qu'on utilise ou bien en physique ou bien en philo, mais jamais personne ne serait condamné. Parce que quand bien même on aurait les empreintes de quelqu'un, on peut supposer qu'il y a un jumeau que personne ne connaît, que les extraterrestres ont mis ces empreintes sur l'arbre, on peut imaginer plein d'hypothèses. En philo, on attend vraiment quelque chose qui est extraordinairement élevé. Et pareil, en physique, on attend quelque chose qui est extraordinairement élevé. Je ne suis pas sûr que, qu'il y ait une implication vraiment par rapport à ça, par rapport à Dieu. Parce que pour le commun des mortels, on est vraiment au-delà de tout raisonnable. Quand je dis que on n'est pas absolument certain que Dieu existe, je le dis au même titre qu'on n'est pas absolument certain que le monde existe. Je pense vraiment que le monde existe. Moi, je pense vraiment que Dieu existe. Donc, c'est vraiment au-delà de tout raisonnable. C'est vraiment la notion de raisonnable qui est importante. Doute, certes, mais au-delà de tout raisonnable.
Je viens de dire quelque chose. Si le péché n'existait pas, vous n'auriez même pas posé la question. Je dirais, parce que Dieu est une évidence. Et nous sommes contingents. Nous n'existons que par Dieu, qu'en Dieu, que grâce à Dieu, que même l'enfant, dès leur début, dès leur naissance, semble-t-il, donc, il y a cette pensée, Dieu est là. C'est une évidence, Dieu. C'est Dieu qui porte tout l'univers, qui maintient toute chose. Tout existe par sa providence, par sa grâce commune. Quand le péché est dans l'âme, on se pose des questions. Il faut se poser des questions. Mais on se pose des questions au point d'arriver à des choses complètement folles. À pouvoir se poser la question du sens du monde. Alors on peut. Et c'est bien. On a le droit. Mais ça devrait se faire dans le cadre de l'évidence de la présence de Dieu. Mais nous sommes contingents. Nous sommes seconds. Et étant seconds, nous ne pourrons jamais devenir et arriver à penser Dieu comme Dieu pense Dieu. Nous pensons toujours Dieu comme des créatures pensent Dieu, c'est-à-dire comme seconds, comme contingents. Alors, c'est une évidence. Jésus n'a jamais dit l'histoire de Dieu, tellement humain. C'est une évidence, mais c'est une évidence seconde contingente. Et le péché fait que c'est compliqué pour un homme de droit et d'accepter cette vie.